Écoute.
Bonjour Monsieur Boniface, nous allons aborder une première thématique d'une guerre que beaucoup considèrent comme oubliée, qui est la guerre au Yémen. Et je vais vous poser une première grande question qui est, est-ce que le Yémen peut être considéré comme une victime indirecte de l'affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran?
Oui, c'est même la victime directe, même si les Yémites ont leur propre responsabilité. En tous les cas, vous avez raison de dire que c'était une guerre oubliée. Elle ne l'est plus maintenant. Elle est venue au premier plan de l'actualité par un événement d'ailleurs qui ne s'est pas déroulé au Yémen, mais à Istanbul, parce que c'est bien l'assassinat de Jamal Khashoggi qui a fait du Yémen un sujet brûlant d'actualité. Le nombre de morts, les horreurs qui s'y déroulent étaient les mêmes, mais manifestement, l'assassinat d'un journaliste a eu un impact très grand, y compris sur ce conflit. Et malgré les agences de communication en faveur de l'Arabie Saoudite, quand même, là, on ne peut plus cacher ce qui se passe. Et effectivement, c'est un tournant parce que la mobilisation et l'effroi étaient tels après l'assassinat de Khashoggi que les gens se sont occupés du Yémen, qu'ils ont vu que c'était quand même principalement les bombardements saoudiens qui conduisaient à la catastrophe humanitaire dénoncée, y compris par les experts de l'ONU et bien sûr par les ONG, donc on ne peut plus cacher, et qu'il y a à la fois les affrontements inter-yéménites qui sont malheureusement violents. Il y a des sources internes à ce conflit. En fait, dans un conflit, il n'y a jamais que des sources internes ou que des sources externes. Là, il y a un mélange des deux. Mais effectivement, on peut dire que la cause majeure et principale de l'état actuel du Yémen, c'est la volonté saoudienne ou la perception de l'Arabie saoudite d'avoir une menace existentielle iranienne qui s'installe également au Yémen. Et effectivement, les civils yéménites sont les victimes, je dirais non pas indirectes, d'ailleurs directes, elles sont des victimes directes de la façon dont l'Arabie saoudite perçoit sa rivalité avec l'Iran.
Donc vous avez parlé de l'assassinat du journaliste à Istanbul, et la deuxième question c'est, est-ce que donc le conflit yéménite et l'affaire du journaliste saoudien vont-ils avoir un impact négatif sur les alliances qu'a l'Arabie saoudite avec d'autres pays et surtout avec les Occidentaux?
Bah, on a vu quand même que ça fait longtemps que les ONG se mobilisent. On a nous-mêmes d'ailleurs à l'IRIS fait une table ronde il y a déjà plusieurs semaines sur le Yémen. Ça fait longtemps que les ONG disent il faut que les pays occidentaux fassent pression sur Riyad pour que les bombardements aériens sur la population civile cessent. Pour l'instant, sans succès. L'assassinat de Jamal Khashoggi a changé la donne parce que c'était un journaliste influent introduit à Washington. Ça aurait été un journaliste simplement saoudien, n'étant pas sorti de la Russie, il n'aurait pas eu le même impact. Et donc là, effectivement, le cercle washingtonien s'est mobilisé et les gens se sont dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Parce que finalement, c'est le même homme, Mohamed Ben Salman, que certains présentent comme un grand modernisateur qui est en fait à la source de l'assassinat et de la guerre du Yémen. Donc le lien a été fait. Et du coup, il y a eu plus de pression sur les gouvernements occidentaux, européens ou États-Unis. Et du coup, comme il y a une mobilisation à la fois médiatique et d'opinion publique plus forte, les gouvernements ont pris quelques distances. Il est quand même plus difficile de s'afficher sereinement aux côtés de Mohamed Ben Salman aujourd'hui, une fois encore, malgré les efforts des agences de communication.
Donc, c'est lié à ma troisième question. Donc, on peut supposer que cette affaire du journaliste a remis le conflit yéménite au devant de la scène et surtout est en train d'isoler l'Arabie saoudite sur la scène internationale.
Oui, effectivement, l'Arabie saoudite est beaucoup plus isolée. D'ailleurs, le sommet, ce qu'on appelait le Davos du désert, a été déserté plutôt par de nombreux leaders politiques ou économiques qui devaient y venir. La question qu'il se pose, c'est que est-ce que Mohamed Ben Salman pourra rester le prince héritier et puis attendre que ça se passe, attendre que l'orage passe et ensuite en reprenant des relations business as usual, ou est-ce que l'opprobre sur lui est tellement forte qu'il sera difficile de considérer que c'est un homme tout à fait nouveau et tout à fait sans tâche et qu'il sera nécessaire pour l'Arabie saoudite, pour le roi Salman, de changer de prince héritier. Mais on en est là pour l'instant, difficile de savoir lequel de ces deux scénarios prendra l'ascendant.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la deuxième thématique.
Donc nous voulions vous poser des questions aussi sur donc les élections de mi-mandat aux États-Unis, ainsi que sur la visite de Donald Trump à Paris en novembre. Donc la première question était ciblée sur les conséquences finalement de la conquête de la Chambre des représentants par le Parti démocrate pendant les élections de mi-mandat. Donc la conséquence de cet événement sur premièrement les élections de 2020 et aussi sur la politique extérieure de Donald Trump.
Alors, ces deux sujets différents. Sur la politique extérieure, on peut dire que du fait que la Chambre des représentants est devenue démocrate, Trump aura moins de marge de manœuvre sur le plan intérieur et qu'il sera probablement tenté de faire plus d'esbrouf, de bruit, de présence sur la scène internationale. Et quelque part, la scène internationale va être victime de la victoire des démocrates à la Chambre des représentants parce que Trump, une fois encore, aura ses marges de manœuvre restreintes sur le plan intérieur et toujours libre parce que la Chambre des représentants ne pourra pas l'entraver sur le plan extérieur. Pour 2020, il est vraiment trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences. On sait d'ailleurs très bien que de plus en plus, le sort des élections se joue à quelques semaines, voire quelques jours des élections, non pas 2 ans plus tôt. Qui aurait dit en 2014 que Trump serait élu? Peu de monde. Même déjà à l'été 2016, peu de monde pouvait parier sur cela. Mais en tous les cas, ça va dépendre non plus des démocrates. C'est vrai que si les démocrates restent sur une ligne Clinton, Nancy Pelosi, d'oublier la question sociale, c'est ce qui a conduit à la victoire de Trump, bah finalement cette victoire sera une victoire à la Pyrrhus parce que Trump continuera un peu à pouvoir cultiver ce terrain-là, ou est-ce que des nouvelles figures vont apparaître sur la scène démocrate et surtout, plus que la Chambre des représentants, enfin peut-être dans cette chambre ou ailleurs, est-ce que un leader va se détacher? Pour l'instant, on parle que Hillary Clinton pourrait revenir, Bernie Sanders aussi, il serait peut-être temps qu'il y ait une sorte de nouvelle Barack Obama qui avait pris tout le monde par surprise et de bonnes surprises. Et là, ce qu'il faut pour l'élection présidentielle, c'est qu'il y ait un homme qui incarne le changement et qui soit crédible aux yeux des Américains. Pour l'instant, les démocrates ne semblent pas avoir cela en rayon.
D'accord. Et doit-on s'attendre à ce qu'il y ait une attitude d'autant plus offensive de Donald Trump sur le plan interne?
Bah, il se heurtera à la difficulté de ne plus avoir la majorité à la Chambre, ce qui a été le cas de ses prédécesseurs, sauf George Bush, mais c'était en 2002 le cas très spécifique de l'après 11 septembre. Donc il a encore des possibilités, mais ça sera moins facile. Et on sait que Donald Trump n'aime pas tellement la contradiction. Il aime bien diriger tout seul. Donc il faudra voir comment il va manœuvrer avec un Congrès qui sera plus, enfin une Chambre des représentants qui sera plus rétif. Et il n'est pas habitué à cela. Lui, il a une sorte de gestion. Il gère les États-Unis comme il gérait son entreprise. C'est un chef d'entreprise qui ne supporte pas la contradiction. Et là, avec un Congrès, une Chambre des représentants démocrate, ça sera plus difficile. Et on peut penser que les démocrates vont s'amuser à le titiller. Procédure d'impeachment, c'est pas sûr parce que ça serait mal vu, ça serait long, mais peut-être tout simplement pousser l'enquête sur l'interférence russe qui peut mettre Trump en difficulté.
D'accord. Et donc par rapport à sa visite récente en France, nous voulons savoir aussi les conséquences qu'une défense européenne pourrait avoir sur la politique de Donald Trump.
Alors Trump est en pleine contradiction parce qu'il appelle les Européens à faire plus pour leur défense et quand ces derniers se disent oui on est prêt à le faire, il est complètement déstabilisé. En fait ce qu'il veut c'est pas une défense européenne plus forte, il veut plus d'achats d'armes américaines par les Européens. C'est tout à fait différent. Et surtout, il veut du burden sharing, mais pas de power sharing. Il veut pas partager le pouvoir. Donc le rêve de Trump, c'est des augmentations des dépenses militaires européennes pour mieux acheter des armes américaines, mais surtout pas d'autonomie européenne. Et là, c'est aux Européens de réagir. Effectivement, malheureusement, le fait que les Belges, alors que Trump avait insulté toute l'Europe, achètent des F-35 et non pas un appareil européen, il y avait deux options européennes possibles, et parfaitement regrettables. Un journal belge le soir et avait une illustration le jour même de la décision montrant Donald Trump s'esclaffant en disant ah, formidable, les Européens fabriquent des avions, ils achètent quand même des avions américains. Donc le défi, c'est effectivement d'avoir une défense européenne pas anti-américaine, mais simplement être autonome pour être européen, tout simplement.
Donc on va passer maintenant à un sujet qui se rapproche un peu plus de chez nous, donc l'avenir de l'Union européenne. Donc mardi dernier, Angela Merkel s'est exprimée devant le Parlement européen. C'est un discours qui fait suite à sa visite en France à l'occasion des commémorations du 11 novembre, donc du centenaire de l'armistice, ainsi que sa présence au Forum de Paris pour la paix. Donc ma question rejoint un peu celle qui a été posée précédemment. Angela Merkel, dans son discours, appelle à la création d'une armée européenne. Qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau des suites de cette déclaration?
Bah, c'est toute la question. Est-ce que ce sont des paroles ou est-ce qu'on va parler, est-ce qu'on va passer du dire au faire? Puisque ça fait longtemps que l'on parle de cela. Finalement, les premiers éléments, c'est la communauté européenne de défense en 1954. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, les Européens étaient dépendants des États-Unis pour leur sécurité par rapport à la menace soviétique. ce paysage n'existe plus. Il n'y a plus de menace soviétique. Les dépenses militaires russes sont inférieures aux dépenses militaires allemandes et françaises cumulées. Donc c'est pas une vraie, c'est un défi stratégique, politique. C'est pas une menace militaire. Et donc on pourrait dire, les Européens, surtout avec un président américain qui les malmène, qui les insulte, on n'a plus besoin de la protection américaine. Ils nous considèrent plutôt comme des vassaux que comme des alliés. Eh bien, organisons-nous entre nous. Et donc une défense, une armée européenne autonome, c'est une armée qui est moins dépendante des États-Unis, qui peut rester liée aux États-Unis parce que nous avons des intérêts communs, mais qui, lorsque les États-Unis nous malmènent trop, disent non, stop, on n'accepte pas d'être malmenés et on fait cela. Donc ça veut dire plus d'équipements pour être moins dépendant des équipements européens. Par rapport au projet d'Emmanuel Macron d'augmenter à 2% du PIB le budget de la défense, alors que le budget du Quai d'Orsay est toujours un peu malmené, ben, y a deux façons de voir les choses. Si c'est pour acheter plus d'armes américaines, ça ne vaut pas le coup. Si c'est pour avoir une vraie armée, une vraie autonomie stratégique européenne, c'est effectivement quelque chose qui vaut le coup. Et donc c'est vraiment le thème de l'autonomie stratégique européenne. Est-ce qu'on est dépendant de Washington ou est-ce qu'on est autonome? C'est ça le sujet central. Et on peut espérer que Mme Merkel n'a plus que 2 années au pouvoir. Eh bien, bien sûr, elle est prise dans des contradictions politiques intérieures très fortes, mais elle peut aussi dire, bah, je pourrais rentrer, sortir par le haut, et pendant les 2 ans qui me restent à exercer le pouvoir, eh bien, mettre en place, contribuer à mettre en place cette autonomie stratégique européenne.
Très bien. Une autre question qui touche à au domaine de la défense dans l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut analyser les positions divergentes de la France et de l'Allemagne en ce qui concerne donc les ventes d'armes à l'Arabie saoudite? Et comment est-ce qu'on peut mettre ces deux positions divergentes dans le prolongement de la position commune sur les exportations d'armement?
Ouais, on peut ne pas être d'accord sur tout. Comment expliquer la différence entre l'Allemagne et la France? C'est simple, c'est que la France a toujours une politique très active de vente d'armes parce que pour avoir son instrument militaire, elle doit dépendre, disons que la taille de l'armée française ne suffit pas à satisfaire la production de l'industrie militaire française et que celle-ci a besoin d'exporter pour avoir la taille critique. L'Allemagne, si même maintenant l'Allemagne est devenue un exportateur important, l'Allemagne n'avait pas ce besoin. Et puis on peut dire que du coup aussi il y a en Allemagne des considérations morales qui existent moins en France sur cela. Donc on peut dire que la France est parfaitement décomplexée par rapport aux ventes d'armes, que l'Allemagne est encore complexée par rapport à cela, ce qui explique la différence de réaction entre Paris et Berlin sur ce sujet.
D'accord. Et donc vous avez évoqué précédemment le retrait de Mme Merkel de la vie politique allemande à la fin de son mandat. Est-ce qu'on peut penser que donc cet événement, mis en parallèle avec la montée des nationalismes au sein de l'Union européenne, peut risquer de mettre en péril le couple franco-allemand?
Bah oui, il y a des dangers sur le couple franco-allemand parce que Mme Merkel était bien disposée. Lorsqu'il y a eu l'épisode élection de Macron, élection prévue en septembre en Allemagne, on pensait que ça allait redémarrer. Les relations étaient moins bonnes entre Angela Merkel et François Hollande, qui lui paraissait moins fiable. Elles étaient difficiles avec Nicolas Sarkozy également pour une grande partie du temps. Et là, effectivement, il y a des forces en Allemagne qui sont plus atlantistes. Il y a des gens qui disent, attention, on ne pourra plus exporter de voitures aux États-Unis si on se fâche avec les Américains. Mais en même temps, il y a aussi toute une génération qui pense que le passé est le passé, que l'Allemagne est maintenant un pays adulte qui doit avoir une politique autonome sur le plan stratégique. Rappelons-nous quand même que l'Allemagne a participé avec la France en 2003 au combat contre la guerre d'Irak, que dès 1999, Gerhard Schröder avait refusé la défense antimissile américaine, qui était pourtant un programme majeur. Donc il y a aussi, le fait que l'Allemagne se renforce peut être utile à la France, si elle met cette force nouvelle et cette puissance nouvelle au service d'une autonomie européenne.
Très bien. Donc pour finir, comme je l'évoquais un peu plus tôt, on va évoquer le thème du Forum de Paris pour la paix. C'en était une première édition. Est-ce qu'on peut penser que c'était une réussite?
Oui, c'était une réussite parce que quand on a 80 chefs d'État qui viennent aux commémorations et une grande partie qui reste au Forum, bah, la France a été sur le devant de la scène, elle a été au cœur de l'actualité. Et c'est toujours bien pour le statut de la France. Les débats ont été productifs, divers, entre les ONG, les grandes messes solennelles et les débats interactifs. Et ça a été quand même une réaffirmation du multilatéralisme. On peut dire qu'il y avait à la fois un grand présent et un grand absent. Le grand absent, c'était Trump, parce qu'il a fui cela. Et en même temps, il était présent, parce que sans que l'on cite son nom, il était présent dans tous les esprits, parce que ce forum était en fait un forum pour défendre le multilatéralisme. Et par qui est-il attaqué? Par Donald Trump. Donc c'est bien lui qui était au cœur des débats alors qu'il n'était pas présent.
Du coup, une autre question par rapport à ce sujet. Donc, la montée des puissances de nationalistes et l'absence du président de la première puissance mondiale à ce forum est-elle finalement un aveu d'un échec du multilatéralisme qu'avaient imaginé les Nations Unies?
Oui, enfin, le multilatéralisme en crise. C'est vrai que les espoirs des rédacteurs de la charte en 45 ne sont pas satisfaits, parce que ce n'est pas l'ONU qui est vraiment en charge de la sécurité collective. En même temps, il faut voir que l'ONU est utile. Elle n'a pas une baguette magique, ce n'est pas un gouvernement mondial, mais elle fait, comme l'a rappelé d'ailleurs Antonio Guterres, son secrétaire général au Forum de Paris, pour prendre un exemple, lorsqu'il faut combattre le virus Ebola, tant mieux que l'OMS est là, parce que c'est du concret, etc., le HCR. Donc on regarde toujours, en fait, le plus spectaculaire, c'est l'échec du Conseil de sécurité à ramener la paix en Syrie, au Proche-Orient. C'est pas l'ONU en tant que telle, c'est la division entre les membres permanents. Donc c'est vrai que le multilatéralisme est en crise, c'est pour cela d'ailleurs que le Forum de Paris a été suscité, mais l'ONU reste indispensable et il faut la conforter, même si elle est attaquée frontalement aujourd'hui par Donald Trump et que l'on peut penser que les attaques risquent d'être encore plus fortes dans les 2 ans qui viennent.
Dans le cas du Forum de la paix, nous avons donc parlé du débat entre l'unilatéralisme et multilatéralisme. Je vais vous poser une question, c'est surtout sur le web, qui est devenu un enjeu assez important pour la paix actuellement. On parle de la diffusion des fake news, de l'endoctrinement djihadiste via les nouveaux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ce sujet a été suffisamment discuté? Pour quelles conclusions?
Oui, il a été traité. Il y a aussi tous les problèmes de gouvernance mondiale d'Internet qui se posent, qu'il faut être partagé. Alors, bon, le débat sur les fake news, je crois qu'il existe. En même temps, les fake news ne sont pas que sur Internet. Il y a aussi des fake news, des fois, dans le discours des dirigeants et dans les médias centraux. Ce qu'il faut, c'est simplement augmenter le sens critique des gens. Je crois que c'est aussi pour ça que vous êtes IRISUP, c'est pour augmenter votre sens critique. Et en tous les cas, je m'élève un peu sur cette division, les fake news sur Internet et la vérité dans les médias centraux. C'est plus compliqué que cela. Et fort heureusement, on peut combattre les fake news par le sens critique, par la contre-diffusion de bonnes nouvelles. Et en fait, le combat pour la vérité et le mensonge, il a toujours été éternel. On dit toujours que la première victime d'une guerre, et c'est, on disait ça avant qu'Internet existe, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Parce qu'effectivement, en période de tension internationale, c'est la vérité qui attaquait le premier. Et aujourd'hui, le facteur positif, c'est que les opinions comptent plus dans le débat international, mais comme les opinions comptent plus, les tentatives de manipulation et de désinformation sont bien sûr plus importantes.
Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.